Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Trendstalk. Nous allons parler aujourd'hui de deux secteurs qui sont cruciaux pour le moment. On en parle beaucoup et on en parle beaucoup dans le cadre de crise, en l'occurrence, la pandémie pour la santé et l'énergie pour l'inflation. Pour en parler, on rencontre Arnaud Merlet, qui est CEO d'une société qui est basée à Louvain-la-Neuve, qui s'appelle Ensight, qui est née en 2000, si je ne m'abuse, dans le giron de l'université. Exactement. Et qui aujourd'hui travaille fort opportunément, j'allais dire, sur des réponses dans ces deux domaines stratégiques-là, oui. Des réponses qui sont technologiques, qui sont liées à l'intelligence artificielle et aux mathématiques appliquées. Vous allez nous expliquer ça, mais ce n'est pas par hasard que vous êtes actif sur ces deux secteurs-là, santé, énergie. C'est un choix stratégique, un choix d'avenir ?
Tout à fait. Alors, bonjour Olivier et merci de me recevoir. Effectivement, Ensight, c'est une scale-up de Louvain-la-Neuve qui émane de l'université et qui travaille sur ces deux segments, deux secteurs, l'énergie d'une part et la pharma de l'autre. C'est nous, notre raison d'être quelque part, c'est d'appliquer l'intelligence artificielle, des maths appliquées, dans des logiciels qui aident nos clients à mieux décider, à gérer la complexité auquel ils font face. Et ces deux secteurs-là sont des secteurs sur lesquels on peut avoir un impact énorme, parce que l'enjeu des décisions qu'on prend est significatif.
Parce que les échelles sont importantes, parce que les changements sont importants, c'est ça
Exactement, les échelles sont énormes. Donc dans le secteur de l'énergie, la consommation énergétique, si on arrive à ne serait-ce avoir des impacts de quelques pourcents, c'est gigantesque en termes d'impact. Et sur la pharma, les essais cliniques, il y a des milliards qui sont dépensés dans les essais cliniques. Et si on arrive à accélérer ne serait-ce que d'une semaine ou deux, sur le développement d'un vaccin, par exemple, ou si on arrive à réduire le risque, réduire le gaspillage, ça a des impacts colossaux qui se chiffrent en dizaines et souvent en centaines de millions d'euros.
Donc ça permet de trouver des solutions plus rapidement, c'est ça, plus efficaces au niveau financier, donc c'est vraiment…
On réduit le gaspillage, ouais. On réduit le risque et on accélère.
Et donc, par exemple, parlons de l'énergie dont on parle beaucoup ces temps-ci, hein, avec… les hauts prix de l'énergie, mais de manière générale, on sait qu'on a une lame de fond qui est la transition énergétique qui est là avec les objectifs de décarbonation de la société. Ouais. Vous allez mettre en place une application, un logiciel qui s'appelle LocalFlex, enfin non, c'est le réseau ça, qui s'appelle LocalFlex, qui est une collaboration avec la Bourse européenne d'achat d'électricité. Racontez-nous un peu comment ça marche. En fait, vous travaillez sur un algorithme, c'est ça
qui est... C'est ça, nous on fait l'intelligence du système. Ouais. On a un partenariat depuis longtemps avec EPEXPOT, qui est un peu l'Euronext de l'électricité, si vous voulez, en Europe. Mmh. On fournit depuis maintenant plus de 10 ans un algorithme qui calcule les prix d'échange d'énergie, de l'électricité en Europe. Ce qui a un impact énorme en termes de bien social, si vous voulez, d'être capable d'échanger de l'énergie, d'électricité, c'est fondamental quand il y a une surproduction quelque part, une sous-production ailleurs, et donc ces acteurs se mettent d'accord sur les prix de l'énergie et échangent. Et nous, on permet ça. C'est très difficile de trouver une solution rapide, mathématique, à ce problème-là. Et donc, en fait, nous, on aide à calculer les prix, et c'est ce que fait notre algorithme. Donc ça, on le fait au niveau du marché européen, de l'électricité sur ce qu'on appelle le marché DEED, donc pour le lendemain, la veille, tous les acteurs se mettent d'accord sur les prix auxquels ils vont s'échanger de l'électricité le lendemain. La partie LocalFlex que vous évoquez, c'est une nouvelle solution qui va, si vous voulez, faire appliquer le même principe mais au niveau local. Je vais vous donner un peu le contexte. On est dans une, effectivement, comme vous le disiez, dans une transition énergétique, la transition énergétique. Donc en fait, il y a des grandes tendances dans le monde de l'énergie. Il y a l'électrification de l'économie. On utilise de plus en plus d'électricité.
Et ce sera encore plus le cas. Ouais,
ouais, et ça va être beaucoup plus le cas parce qu'on en a besoin pour aller vers une économie qui est plus bas carbone. Il y a l'émergence des énergies renouvelables qui, par définition, sont beaucoup moins pilotables. Elles dépendent du vent, de l'ensoleillement, etc.
Intermittentes par essence. Ouais, ouais.
Et donc ça ajoute beaucoup de complexité pour un opérateur dans la gestion de son réseau. Donc c'est une complexité qui n'est pas facile à gérer et qu'on est obligé, quelque part, d'automatiser. Vous avez l'émergence des voitures électriques. Donc qu'est-ce que c'est qu'une voiture électrique? C'est une grosse batterie sur roue. Et si aujourd'hui, vous avez toutes les personnes qui s'équipent en voiture électrique qui essaient de charger au même moment, le réseau de distribution locale dans un quartier n'est pas dimensionné pour ça. Donc en fait, il faut gérer cette complexité, il faut gérer ce nouveau paradigme. Et ce que cette solution va aider à faire, c'est à lisser la demande
C'est d'avoir une grande flexibilité, en fait.
C'est apporter de la flexibilité. C'est pour ça que ça s'appelle Local Flex. La flexibilité, qu'est-ce que c'est? C'est vous, en tant que consommateur, industriel.
Vous choisissez le moment le plus opportun pour consommer votre électricité, en
Exactement.
Substance.
Ouais. Et en échange de ça, alors si vous êtes industriel, vous pouvez accepter de consommer plus à certains moments que d'autres et avoir un contrat qui est plus avantageux, par exemple. Si vous, vous avez une voiture électrique, vous n'avez pas forcément besoin, quand vous rentrez chez vous le soir, qu'elle se charge tout de suite. Par contre, vous avez besoin qu'elle soit chargée le lendemain matin. Donc, vous allez simplement dire à votre opérateur de réseau, moi, j'ai besoin que ma voiture soit chargée à 8 heures du matin. Vous le programmez dans votre voiture. Et ben, à l'avenir, le réseau local pourra utiliser le surplus d'électricité qui est stocké dans votre batterie s'il en a besoin localement pour apporter de l'énergie au foyer en fin de journée, où il y a une pic de consommation en soirée. Et puis, ben, tranquillement, recharger dans la nuit, là où on a besoin, où il y a moins de demande d'électricité et donc une capacité à apporter de l'énergie plus grande.
Donc ça a un impact sur la capacité d'utiliser l'électricité, ça a un impact sur le coût aussi
Alors ça a un impact indirect sur le coût, en gros on va pouvoir faire plus avec moins. Oui, voilà. Donc on va pouvoir utiliser les réseaux existants sans avoir à tout repasser de nouvelles lignes partout. Parce que si on gère le réseau de distribution d'électricité demain comme on le gère aujourd'hui, il faut tout reconstruire.
Oui c'est ça, et donc ça veut dire aussi qu'on permet à chacun… en l'occurrence bah, les entreprises, mais aussi les particuliers, mais d'être des acteurs de la transition. C'est-à-dire que ce qu'on peut déjà être, mais là, de manière intelligente. Quoi.
Exactement. Alors, il faut apporter de l'intelligence. C'est ça, le problème. Ouais. C'est qu'on a besoin d'un pilotage qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus local.
Oui, c'est ça que de dire, vous allez recharger votre voiture entre
pas donner des grandes consignes. Exactement. Et donc ça, ça doit être piloté par un système. Donc nous, on apporte l'intelligence de ce système. Apex apporte la partie opérationnelle de ce système. Et on va essayer de le vendre à travers le monde. On a déjà un pilote au UK qui fonctionne et on va essayer de l'amener à travers le monde.
Oui, un essai qui a montré aussi et qui a montré aussi des résultats probants en matière d'économie notamment.
Enfin, ça fonctionne, tout à fait. Et le besoin, alors en fonction des pays, la législation permet ou pas de le faire. Il y a des pays où on n'a pas encore le droit de rentrer dans ce genre de contrat avec des consommateurs finaux, par exemple, consommateurs final. Mais je pense qu'à terme, tout le monde y viendra.
La question, c'est quand même l'efficacité, on est d'accord. C'est-à-dire comment on produit, en l'occurrence ici, de l'énergie, et comment on fait en sorte qu'on n'en perde pas, qu'on utilise au maximum les capacités qui sont là.
Ouais. C'est ça, utiliser au mieux les capacités, utiliser au mieux les réseaux existants, utiliser au mieux les contraintes de l'intermittence. Donc en fait, c'est permettre le renouvelable aussi, donc c'est permettre la transition énergétique.
Donc ça, c'est un peu un chaînon manquant hein, par moment. Enfin, on sait qu'il y a la question du stockage qui est un élément important, évidemment, pour que cette énergie
qui est très
se
compliqué
perde
pas, à faire à grande échelle, le stockage.
C'est ça. Hein. Ici, on est dans un autre chaînon manquant qui est celui de la meilleure utilisation sur le réseau, quoi, ou de la meilleure exploitation du réseau.
C'est l'optimisation de l'utilisation du réseau de distribution au niveau local, sachant qu'on optimise déjà au niveau global, européen. Mm-hmm. On le fait aussi en Inde, d'ailleurs. Hein. On fait tourner les bourses d'électricité en Inde. Et on va le faire maintenant au niveau local.
Oui, c'est ça. C'est un bon élément en plus. Est-ce qu'on parle souvent de contraintes quand on parle de transition énergétique? Il y a aussi cette espèce de fracture par moment entre est-ce qu'il faut la sobriété ou est-ce qu'il faut croissance, décroissance. Enfin, c'est un peu ça.
Oui, tout à fait.
Bon, là, on est dans des questions philosophiques, mais ici, on n'est pas là-dedans. En fait, on est justement sur la croissance qualitative, en réalité.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a beaucoup de débats et c'est très politique et c'est très, très sensible hein, sur le comment est-ce qu'on fait, comment on s'en sort.
Hein,
on a la planète qui se réchauffe, on rejette encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Quels sont les leviers? Le premier levier, c'est réduire la taille de la population au niveau global. Donc ça, c'est peut-être difficile à dire, mais bon, on a des schémas de simulation qui disent que la population va s'arrêter de grandir et va stagner d'ici la fin du siècle. Donc, bon, déjà sur ce point-là, ça limitera la pression. Ensuite, il y a l'histoire du PIB par habitant, le produit intérieur brut par habitant. Est-ce qu'on a toujours besoin de produire plus les émissions carbone? 25% des émissions carbone, c'est les produits manufacturés. Donc, il y a quand même une petite question, est-ce qu'on a toujours besoin de consommer plus pour être heureux? Et est-ce que le monde dans lequel on est pérenne avec toujours plus de consommation? Ensuite, vous avez la quantité d'énergie par unité de PIB produite. Donc, ça, sur ces 40-50 dernières années, ça a déjà été divisé par deux. C'est-à-dire qu'on est capable de produire la richesse avec deux fois moins d'émissions carbone qu'on le faisait il y a 40-50 ans. Mais c'est des choses qui changent très lentement. Et puis ensuite, le dernier point, c'est l'émission carbone par unité d'énergie. Quoi. Et donc ça, c'est la transition énergétique.
Oui, ça, mais on est quand même dans cette question d'efficacité, c'est-à-dire et d'éviter les perditions, le gaspillage, pour le dire bêtement, c'est ça.
On doit réduire le gaspillage, on doit être plus efficace, on doit faire le maximum avec ce qu'on a.
Et bête question, pour une entreprise par exemple, comment ça fonctionnera? Comment est-ce qu'elle pourra avoir, donc déjà maintenant, des entreprises monitorent quelque part, notamment celles qui consomment beaucoup d'énergie, elles monitorent un peu leur consommation en fonction de l'évolution du marché. Ça oui. se fait déjà.
Oui, tout à fait.
Quelle est la plus-value qu'elles auront, entreprises ou particuliers?
À rentrer dans un schéma comme ça, ben, ça aura des contrats plus intéressants. C'est que vous aurez un prix unitaire d'électricité qui sera plus faible si vous acceptez d'être flexible. Si vous acceptez en fait, d'adapter votre schéma de consommation à la demande, peut-être piloté d'ailleurs par le réseau électrique, c'est-à-dire que vous mettez à disposition votre flexibilité. Ouais. Et si vous êtes flexible, vous aurez probablement de meilleures conditions que quelqu'un qui souhaite consommer ce qu'il souhaite consommer au moment où il le souhaite. Quoi.
Et quoi, ça a des implications sur votre fonctionnement sur,
Alors après, ça dépend des industries, mais en tant qu'industriel, il y a certains processus que vous pouvez faire tourner de nuit plutôt que de jour, et vous n'êtes pas forcément en flux tendu, donc vous pouvez avoir décidé de consommer au moment où l'électricité est la moins chère, ou on vous le suggère, par exemple.
Alors en matière de santé, donc vous êtes actif sur ces deux terrains-là. Alors, je comprends bien que l'outil est le même.
L'outil n'est pas exactement
le
même.
Non, quand je dis l'outil, c'est-à-dire la philosophie.
Absolument.
Mais alors, comment ça se traduit, là?
Dans la santé?
Oui.
Alors, ce qu'on fait dans la santé, c'est qu'on optimise les supply chains des essais cliniques. Quand vous faites un essai clinique, c'est quelque chose qui dure souvent plusieurs années. À travers le monde, vous allez tester des médicaments.
Ça peut se faire plus vite, on l'a vu pendant la pandémie, que ça pouvait justement.
Ça peut aller plus vite, mais bon, ça peut aussi prendre... En général, ça prend quand même plusieurs mois, voire années. Et c'est très coûteux. C'est très coûteux parce qu'il faut envoyer des médicaments à travers le monde et les tester sur des patients et gérer tout ça. Et la manière dont on approche la problématique, en général, parce que le risque que tout le monde veut éviter, c'est qu'un médicament ne soit pas disponible pour un patient qui en a besoin, même dans le cadre d'un essai clinique, au moment où il se trouve. Donc, on a tendance à envoyer beaucoup de quantités un peu partout, à faire du gaspillage, en fait. Donc nous, ce qu'on regarde, on a une approche statistique des choses et on va optimiser de manière à ce que le risque soit réduit et que le gaspillage soit réduit. Et donc, dans la majorité des essais cliniques, on arrive à réduire de 50 à 70% la quantité de médicaments qui est utilisée. Et souvent, c'est des médicaments assez coûteux. Donc ça, les économies se chiffrent souvent en dizaines de millions d'euros, assez rapidement.
Et donc ça, on parle d'efficacité.
On parle d'efficacité.
Oui, d'efficacité, de chasse au gaspille.
Notre motto, c'est « decide better ». Donc c'est aider les entreprises, en tout cas les secteurs sur lesquels on travaille, à prendre de meilleures décisions compte tenu de problématiques qui sont très complexes. Donc beaucoup de paramètres, il n'y a pas de solution évidente, on ne peut pas prendre de décision par intuition, ou on est obligé d'avoir une approche mathématique, statistique, qui souvent utilise aussi de l'intelligence artificielle pour arriver à une conclusion. Et c'est ça qui en fait que la décision est bonne et que la décision est optimale.
C'est ça, c'est gagner, enfin éviter le gaspillage, gagner du temps. Est-ce que ça veut dire qu'on peut gagner en efficacité, comme on l'a dit? Ça veut dire que pour des essais cliniques, que ça peut accélérer le processus? Alors, que ça peut accompagner des mutations de manière plus rapide?
Si on design correctement un essai clinique, on peut arriver à le faire plus rapidement, effectivement. Et donc, on peut gagner quelques semaines, quand vous avez un vaccin à développer en urgence, ça... Ça a un impact certain sur...
Mais par exemple, là, on vient de le voir, on l'a dit avec le développement des vaccins ARN messager, alors technologie qui existait, mais qui a dû être quelque part...
Déployé plus rapidement.
Oui, déployé plus rapidement. Ça veut dire que ça, c'est dans vos cordes. Enfin, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler pour dire, ben, nous, on peut...
Sur lequel on a travaillé, d'ailleurs.
Sur cela, précisément, oui.
Oui, alors je ne peux pas donner de nom, mais on a travaillé sur ces problématiques, tout à fait.
Vous ne pouvez pas donner de nom parce que c'est des contrats qui sont entre guillemets discrets.
C'est sensible.
D'accord, oui. Mais donc ça montre que là, par exemple, c'est le cas.
L'impact est gigantesque.
Évidemment. On l'a salué suffisamment.
Tout à fait.
Pour dire, on se retrouve quand même à quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, en fait.
Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de laboratoires pharmaceutiques se rendent compte qu'ils ont été capables de faire en peu de temps ce qu'ils auraient normalement pris plusieurs années à faire. Mmh. Et donc, il y a une prise de conscience du marché de la possibilité d'aller plus vite. Si on design correctement ces essais cliniques et si on optimise le supply chain derrière.
Sans prise de risque sur la santé. Enfin, je veux dire, parce
voilà,
que,
bien sûr.
Évidemment, ça a été. Enfin, je ne sais pas si c'est délicat pour ça aussi, mais parce que j'imagine qu'on sait qu'il y a eu des commentaires de certains qui disaient comment est-ce possible qu'on nous injecte quelque chose qu'on a fait en un temps record comme ça. Ce n'est pas mon opinion.
Oui, oui, alors on peut comprendre le sentiment du public là-dessus. Il y a un paramètre, en tout cas, je pense, sur lequel l'industrie est quand même très, très, très précautionneuse, c'est le paramètre du risque. Et c'est un paramètre, en tout cas, quand nous, on le prend en compte dans les recommandations qu'on apporte, qui est fondamental et sur lequel on ne joue pas. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas le niveau de risque pour réduire le gaspillage. C'est un niveau de risque constant qu'on permet de réduire le gaspillage ou d'aller plus vite.
Oui, c'est ça. Et vous dites que là, dans ce secteur-là, bon, dans l'énergie aussi, évidemment, mais dans la santé, c'est un domaine où il y a énormément de possibles, en fait. Quelque part, ce que l'on a... Alors, la pandémie a été une tragédie pour beaucoup de gens qui en ont souffert, mais ça a été aussi... On a ouvert des perspectives comme jamais, en fait, notamment dans le domaine de la santé. Certains disent maintenant on peut avoir des traitements cancer, maladie incurable, maladie orpheline, enfin que sais-je, potentiellement en tout cas. Ça veut dire que...
Je pense que ça a donné un peu d'espoir, globalement, sur la capacité qu'avait en tout cas le secteur et l'humanité à faire face à des pandémies. Et c'est un risque qui avait déjà été identifié par certains. Enfin, je me souviens de Bill Gates qui en parlait déjà 10 ans du risque de pandémie globale et n'était peut-être pas très pris au sérieux à l'époque. Et on constate aujourd'hui que le risque, il est permanent. Donc ça peut arriver demain avec d'autres virus.
Et ça, et sur lequel vous pouvez, vous, être un accélérateur de particules de solutions, quoi. C'est vraiment ça.
Voilà,
en fait.
Très modestement, hein, mais nous, absolument.
Ouais. Ouais. Et donc, quelque part, je me projette, mais vous avez choisi deux secteurs qui sont stratégiques aujourd'hui, qui sont, j'imagine aussi qu'il y a une question de sens. Enfin, j'imagine qu'il y a aussi un choix qui est…
Tout à fait. Alors, on est une entreprise à impact. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que la manière dont on prend des décisions, dont on décide où on travaille, avec qui on travaille, comment on travaille, on se soucie toujours d'avoir un impact social positif. Et donc ça veut dire de faire des choses qui font du sens et
qui contribuent à apporter des solutions sur des sujets qui vous paraissent importants. Quoi.
Et à faire quelque chose de plus optimal. Et le monde a besoin d'optimisation. Et l'optimisation, c'est dans nos cordes. Et donc on le fait sur des secteurs sur lesquels on pense que les enjeux sont les plus importants.
Pour la santé,
pour la société en général. Voilà. Alors on pourrait faire ça dans les services financiers, on pourrait faire ça dans d'autres secteurs.
Oui,
mais ça nous porte moins.
La même philosophie pourrait être utilisée, mais vous dites autant la mettre à contribution d'enjeux qui sont.
Et on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur ces deux secteurs-là.
Il y a beaucoup, beaucoup de demandes.
Ah oui, tout à fait. Nous, on a fait une croissance, ça fait plusieurs années qu'on fait une croissance de 40% par an. On vient de rajouter, on a 200 personnes aujourd'hui, on vient d'en rajouter 50 là, ces 6 derniers mois. Donc on est juste limité par notre capacité à former suffisamment de talents à ces techniques quand on les recrute.
Et comment ça se fait qu'il y a une telle croissance? Parce que les entreprises se rendent compte qu'il y a ce besoin-là, c'est-à-dire d'une efficacité accrue. Enfin, les entreprises, pas que les entreprises, en l'occurrence, c'est aussi une gestion globale, on le voit.
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un chaînon d'aller vers un monde qui est de transition énergétique, d'aller vers le monde de demain. On a besoin de cette optimisation, on ne peut plus se permettre d'avoir 30% de la nourriture qui est gaspillée dans le monde, on ne peut plus se permettre d'être inefficace comme on l'a été.
– Ça pourrait être un domaine d'ailleurs sur lequel vous pourriez intervenir. Enfin, maintenant on parle d'une crise alimentaire.
– Tout à fait, pourquoi pas. Ouais. Mais on a vécu un monde d'abondance avec l'émergence des énergies fossiles qui ont permis au siècle dernier d'élever le niveau de vie, en tout cas dans les économies développées, d'élever significativement le niveau de vie. Aujourd'hui, c'est plus pérenne, et donc on a besoin d'optimiser.
Oui, c'est ça. Alors, c'est une entreprise qui est née, on l'a dit, dans dans le giron d'une université quand même, hein,
oui, tout à fait.
Au départ, avec, ça montre qu'il y a un potentiel énorme. Vous êtes toujours à Louvain-la-Neuve.
On est toujours à Louvain-la-Neuve.
Toujours sur le site de l'UC Louvain, enfin, dans le parc scientifique.
On n'est pas très loin, ouais.
Ça veut dire que ça reste important, ce compagnonnage-là.
On recrute beaucoup à l'université. Ouais. D'ailleurs, l'université a des profils qui sont assez internationaux, donc qui ensuite nous rejoignent. Donc nous, on bénéficie aussi de ce côté, de cette diversité. On a 30 nationalités différentes. Hein. La majorité de nos équipes sont à Louvain-la-Neuve. On a un petit bureau à Boston également. Mais on bénéficie du coup de cette diversité. On a 20% de doctorants dans nos équipes, dont la plupart viennent de l'université et voilà, sont très bien formés et nous aident à construire ces solutions.
Il y a une question de pénurie potentielle aussi. Enfin, il y a des secteurs comme ça de pointe, j'allais dire, enfin, qui sont parfois dans des questionnements difficiles. Bon, évidemment, du coup, oui. Là, il y a une synergie qui est possible.
Pénurie de talent, vous voulez dire ?
Oui.
Oui, tout à fait. Bon, bah, aujourd'hui, c'est le principal problème auquel on fait face. Oui, c'est la pénurie de savoir attirer et retenir des talents.
Quelque part, d'avoir la capacité d'accompagner votre développement, quoi, c'est ça ?
Absolument. C'est le facteur limitant le plus fort dans notre développement. C'est-à-dire que si on doublait la taille des effectifs, on pourrait aller chercher beaucoup plus de
revenus. Vraiment ?
Oui, tout à fait.
Et travailler sur d'autres secteurs, par exemple, c'est ça ? Enfin, que j'entends votre philosophie. Hein, donc pour
oui,
autant,
tout à fait. Alors,
autant que ça s'inscrive
aller sur
là-dedans.
Secteurs. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on est limité par la quantité de data. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de packager un maximum notre intelligence dans le logiciel, de manière à ce que ce soit réutilisable et que le plus possible d'entreprises puissent l'utiliser, sans qu'on ait forcément, nous, à intervenir et apporter notre intelligence dessus. Donc, on travaille beaucoup sur l'automatisation, hein, dans l'énergie, la gestion des réseaux de distribution, la gestion la planification de la maintenance, etc. Automatiser un maximum ces réseaux. Donc, on construit l'intelligence dans le logiciel et ensuite, on essaie de faire en sorte que le logiciel
diffuser, voilà, de faire diffuse. En sorte que les gens.
Donc, ça, c'est une manière de grandir l'impact sans forcément linéairement augmenter la taille des équipes, quoi. Et d'ailleurs, c'est des secteurs, la pharma, la R&D en pharma et les secteurs de l'électricité sont des secteurs qui encore sont très peu digitalisés. Et où le potentiel d'aller vers l'économie numérique est assez fort et où l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. vont apporter beaucoup au fur et à mesure qu'ils se digitalisent.
Donc vous pourriez dire aux jeunes qui ont envie de se former, nous avons besoin de vous.
Enfin, oui, tout à fait. Oui, on leur dit d'ailleurs. On leur dit, ils nous rejoignent. Et bon, ils ont beaucoup d'opportunités sur le marché parce que c'est forcément des compétences qui sont très, très, très en demande. Parce qu'il y a des besoins dans tous les secteurs. Voilà. Mais c'est des sujets passionnants en tout cas et qui permettent, qui sont aussi très motivants, je pense, d'un point de vue ressources humaines, point de vue motivation. On travaille sur des projets qui embarquent les gens parce qu'ils font sens et qu'ils ont un impact.
Vous êtes d'origine française, je ne me trompe pas.
Oui,
vous êtes
absolument.
De Paris, de...
Alors, je suis de Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français d'outre-mer. Et voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je vis à Paris. Et Inside m'a fait venir, ma foi, à Louvain-la-Neuve.
Et c'est l'enjeu, enfin, j'imagine le défi qui est beau, hein, de répondre à ces enjeux-là, qui vous a motivé
Exactement. Alors moi, je dis toujours deux choses. Qu'est-ce qui fait qu'un environnement de travail est chouette et en fait fait que vous vous sentez bien? C'est les projets, donc les projets sur lesquels vous travaillez. Je pense qu'ils doivent avoir du sens et que voilà, ils vous embarquent. Et puis, les gens avec qui vous travaillez. Et donc, travailler avec des gens qui sont compétents, qui sont bienveillants, qui ne font pas de politique, qui sont là dans le but de construire, c'est ça qui est chouette.
Et vous l'avez trouvé ici
J'ai trouvé dans Inside, oui, absolument.
Spontané, c'est quelque chose, ça se mesure comment
Ça se sent à travers les interactions qu'on a avec les personnes. Déjà, bon, le projet, on arrive bien à voir sur quoi travaille l'entreprise. Ouais. Et puis ensuite, ça se sent au fur et à mesure qu'on découvre l'entreprise dans différents entretiens. La culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est assez fondamental, qui, à juste titre, je pense, est aussi plus important pour les jeunes générations. Hein. C'est-à-dire que c'est une question.
Notamment la question du sens. Hein.
La question du sens, tout à fait.
Aussi de...
La question du sens, de l'environnement, des collègues, comment est-ce qu'on fait les choses, comment est-ce qu'on opère, comment est-ce qu'on travaille. Et c'est quelque chose.
La capacité de peser sur la société, comme vous l'avez dit, de façon positive.
Absolument. Hein. Et la manière dont on engage, dont on collabore, que ce soit constructif, que ce soit bienveillant, que ce soit Voilà, c'est très important aujourd'hui pour les plus jeunes générations. Et je pense aussi c'est pertinent pour l'ensemble des générations, mais c'est un sujet sur lequel les jeunes générations ont amené les entreprises à se questionner, en tout cas.
Vous mesurez, je ne sais pas si vous mesurez d'où vous venez l'enjeu wallon, hein, cette région qui est une région, pas comparée au nord de la France, mais un peu, dans les régions d'Alsace-Lorraine, des régions qui ont eu un grand passé industriel et qui ont eu du mal à redécoller. Oui. C'est un enjeu, est-ce que c'est un enjeu qui vous touche, ça, qui vous parle et est-ce que vous dites, Insight, comme d'autres, hein, on sait qu'il y a beaucoup de talents importants dans cette région, sont là aussi pour contribuer à ça, en fait. Est-ce que ça joue dans
Oui, alors nous, on est ravis d'apporter notre pierre à l'édifice. Ce qui est important dans une région, c'est d'arriver à faire en sorte que, voilà, c'est économiquement prospère et donner une qualité de vie, un cadre de vie à tout le monde. Et à notre manière, on est ravis de contribuer à ça. Alors effectivement, on est obligé de sortir de Wallonie. Hein. 90% de nos clients sont à l'international. On a la majorité de nos employés à Louvain-la-Neuve, mais on est fondamentalement international de par la diversité des profils qu'on recrute et le profil de nos clients.
Mais quoi, ça veut dire que c'est un... Alors j'entends bien qu'historiquement, il y a ce lien avec l'université, avec Louvain-la-Neuve, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme ça se dit « je suis bien là, en fait
C'est nos racines, c'est notre ADN aussi qui est là, hein, donc c'est aussi important dans la culture d'entreprise. On ne peut pas déplacer une entreprise à un autre endroit et espérer que la culture soit la même et que ça fonctionne. Donc il y a ce côté-là qui est assez important. On a toujours des liens forts avec l'université, ça nous apporte toujours des talents et ça c'est super. Et on est fiers d'être wallon, d'être dans cet écosystème et de faire rayonner à l'international les compétences locales.
On a fait un dossier dans le magazine Trends Tendance. Qui est sorti, qui présente un certain nombre de patrons français. Il y a beaucoup de patrons français qui sont actifs en Wallonie, mais on est de pays frères, voisins évidemment, frères, on a la langue qui facilite les écueils, mais parfois aussi des singularités. Par exemple, beaucoup nous disent culturellement, la Belgique, c'est pas la même chose. Vous le voyez comment, vous, il y a un côté d'ouverture, il y a un côté petit, oui. Small is beautiful. Enfin, comment vous voyez ça?
Alors, il y a peut-être un côté small is beautiful parfois, mais il y a aussi un côté d'ouverture assez fort. Et je trouve qu'il y a une ouverture plus forte vers l'international, une capacité à travailler à l'international qui est meilleure qu'en France. Une sensibilité aux langues, à la diversité qui est peut-être un peu plus forte. Et de manière générale, un environnement de travail qui, alors de mon expérience en tout cas, hein, qui est peut-être un peu plus sain, un peu plus direct, un peu plus facile à appréhender, un peu moins politique. Et je trouve ça très agréable personnellement.
Oui, des relations qui sont…
Des relations plus directes, plus franches et plus naturelles. Et alors assez consensuelles. Ce qui n'aide pas toujours facilement.
On parle toujours du compromis à la belge, en tout cas, la concertation sociale. Enfin,
exactement,
ça,
c'est un travers dans lequel il ne faut pas tomber, hein, les mauvais compromis, parce que c'est jamais bon. Un mauvais compromis, ça n'aide pas une entreprise à avancer. Vaut mieux trancher. Mais néanmoins, me semble-t-il, un environnement de travail qui est plutôt sain et agréable.
Bon, à l'heure où on parle, il y a une campagne qui se termine en France pour l'élection présidentielle. On suit ça beaucoup en Belgique. C'est toujours une curiosité.
Oui.
À la fois, la France est un pays important, c'est un pays européen qui compte. Alors, je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter, mais comment vous regardez d'abord, est-ce que vous avez encore un regard aigu sur votre pays
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous dites, oui, il y a un vrai enjeu, en fait. On est dans des moments clé pour tous les enjeux dont on a parlé aussi. Hein,
mais... Oui, tout à fait. En fait, je m'intéresse toujours bien sûr à ce qui se passe en France, métropole. Je pense qu'on est aujourd'hui, le monde de manière générale, est face à des enjeux qui sont considérables, qu'on parle de transition énergétique, qu'on parle de numérique, qu'on parle de... Et malheureusement, je vais peut-être un peu dur, mais la classe politique a souvent un peu un train de retard par rapport à ces enjeux-là et ne les embrasse pas pleinement, de mon point de vue. Et c'est ça qui est un peu dommage dans le débat aujourd'hui, c'est qu'il manque, où il y a une approche trop superficielle ou dogmatique des enjeux fondamentaux comme la transition énergétique ou la santé, ou l'informatique et le numérique.
là où les entreprises comme la vôtre et de manière générale peuvent apporter peut-être justement cette flexibilité, voilà. Cette capacité de s'adapter.
Alors nous, on ne fait pas de politique, mais bon, ouais, on cherche juste à contribuer, mais c'est, on se désole peut-être un peu que les enjeux auxquels le monde font face ne sont pas pleinement saisis par la classe politique.
Eh bien, c'est une belle leçon. Voilà, pas, on n'a pas dit pour qui vous votez, on ne le demandait pas non plus, mais en tout cas, on sait que l'enjeu est important et alors on peut y répondre, comme vous le faites, par des solutions novatrices qui, en plus, se développent bien, donc c'est positif. Et puis, on peut attendre aussi un vote qui est important, on verra ce qu'il donnera. Arnaud Merlet, merci beaucoup. Donc,
merci,
vous êtes le CEO de Inside.
Tout à fait.
Et je pense que ça inspiré beaucoup de nos téléspectateurs en attendant la semaine prochaine, une prochaine édition de Trendstalk. Merci à vous.